Bonjour à chacun. C'est un plaisir d'être avec vous à l'église de la Fraternelle, que je ne connais pas beaucoup, mais c'est vrai que je suis déjà venu une fois, à l'époque de mon ami le pasteur Jean Tison, pour quelques soirs, hein. Je ne me rappelle plus exactement quand c'était, mais voilà, ça fait déjà quelques années maintenant. Je ne travaille plus, c'est incroyable de pouvoir dire ça. Je ne travaille plus depuis exactement le début du Covid. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a un effet cosmique au fait que j'ai arrêté de travailler et que, voilà, ça je ne sais pas. Peut-être que c'est de ma faute, tout ça, voilà. Au début, j'ai cru que c'était un espèce de gag planétaire pour que tout le monde puisse m'accompagner dans ma nouvelle retraite. Puis après, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi important que je le pensais, que ça n'avait strictement rien à voir. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai que j'ai travaillé à la Ligue, j'ai eu le plaisir de travailler avec David pendant pas mal de temps quand même, hein. Je ne sais plus combien d'années. On ne compte pas, hein. Non, on ne compte pas, voilà. Qui est vraiment un très grand ami à moi. Et puis, voilà, j'ai travaillé surtout dans les éditions à la Ligue. Autrement, mon milieu d'origine est l'Armée du Salut, où j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, dans des tâches pastorales, enseignement, rédaction, édition. Et puis, voilà, ben maintenant, je ne fais plus rien, donc ça, c'est super. Voilà, je ne suis pas venu ici pour vous parler de moi, je suis venu pour vous parler du Seigneur, pour qu'ensemble, on puisse réfléchir sur ce projet d'amour, ce plan d'amour du Seigneur. Alors, vous avez entendu le texte tout à l'heure, ce texte de la tempête apaisée. Alors, vous le connaissez tous depuis l'enfance, donc vous vous dites, ça c'est bon, on peut y aller, on peut dormir un petit moment, on connaît l'histoire, voilà. Alors, je vais un tout petit peu vous surprendre, peut-être, en vous donnant une interprétation un peu différente. Alors, on n'aime pas trop ça dans l'Église, quand tout d'un coup, le prédicateur arrive avec une interprétation un peu différente. Donc, je vous laisse la liberté de me brûler à la sortie. Peut-être pas dans la salle, parce que ce serait dommage, comme ça a été rénové il n'y a pas longtemps, mais on peut faire ça sur le trottoir dehors, il n'y a pas de souci. Ce texte assez incroyable de cette tempête apaisée. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, toujours frappé dans ce texte, c'est le fait que Jésus qui connaît toutes choses, donc Jésus qui savait pertinemment qu'une tempête était en train de se préparer, Jésus dort. Jésus dort dans la barque. Il est là, probablement sur un tas de filets, hein, et puis il est couché, peinard, tranquille, il dort. Et il laisse les disciples se débrouiller. Et il a bien raison de faire ça. Parce que les disciples, c'est des pros. C'est des pêcheurs professionnels. C'est des pros du lac. Ils savent comment est-ce qu'on dirige un bateau. Jésus, lui, il est charpentier. Il n'y connaît rien au bateau. Hein? Il n'y connaît rien. Donc il ne va pas se mêler de ce qu'il ne connaît pas. Ce qui est une très bonne leçon dans la vie, hein? Ne pas se mêler des choses auxquelles on ne connaît rien. Si vous arrivez chez votre garagiste et que vous lui dites « Ah, il y a ça qui ne va pas, il faut faire ci, etc. », vous verrez que le garagiste, il va faire une drôle de tête en disant « De quoi il se mêle ? C'est son métier, à celui-là. Il écrit des bouquins et puis il veut me donner des leçons sur comment il faut réparer sa voiture. » Non, mais hein, Jésus n'est pas un navigateur professionnel. Donc, il dort. Il dort au fond de la barque, il laisse ses disciples se débrouiller, assumer. En un mot, il a confiance en eux. Et ça, c'est incroyable. Il a confiance en eux. Et quand les disciples, paniqués, ne savent plus que faire, viennent le secouer, le réveiller, tu pourrais aider, donner un coup de main, il faut tirer sur ça, il faut faire ci, il faut... Il leur dit, mais pourquoi vous vous énervez ? Pourquoi vous paniquez ? Pourquoi vous n'avez pas confiance ? Hein ? C'est l'autre mot de la foi. Pourquoi vous n'avez pas confiance en moi ? Mais moi, je ne suis pas du tout un marin. Hein ? Moi, je n'y connais rien à vos histoires de voiles, de trucs, de ficelles dans tous les sens, etc. Moi, je n'y connais rien. Bâbord, tribord, moi, je mélange tout. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Et pour moi, c'est la première leçon que nous devrions essayer de tirer de ce texte ce matin. Avoir confiance en soi. Dieu a confiance en nous. La preuve, c'est qu'il nous prend à son service. La preuve, c'est qu'il fait de nous ses collaborateurs. Dieu a confiance en nous. Mais nous, est-ce que nous avons confiance en nous? Alors, il y a des gens, ils sont nés comme ça. Il y a des gens, c'est incroyable, quoi. Ils ont confiance en eux, c'est ça, ça, voilà. Ou si la tête est assez large, il faut... Ah, il y a vraiment des gens, c'est super. On se dit, mais purée, il ne doute jamais, lui. Hein. Il se plante souvent, mais il ne doute jamais. Hein. Incroyable, ça. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Désolé, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Voilà, mon père n'a pas souhaité ma naissance, il n'a pas vraiment apprécié ma présence. Toute mon enfance a été faite de « tu peux pas, tu sais pas, t'es pas capable », etc., etc., etc. Et ça, ce n'est pas fait pour nourrir la confiance en soi. Quand j'étais gosse, j'ai un problème de coordination des mains, des doigts, enfin des membres, un peu tout, quoi. Et ma mère, qui, elle, avait une foi alors qu'elle était totalement incroyable, m'a fait faire des leçons de piano, prendre des leçons de piano pendant 4 ans. Imaginez un gars qui n'est pas capable de... Normalement, déjà, j'arrivais pas à attacher mes souliers. J'ai beaucoup de peine à lasser mes souliers, à apprendre à jouer du piano, comme Roger. Hein. Il est où, Roger? C'est incroyable, je veux dire. J'écoutais là, je me disais, purée, comment est-ce qu'il fait pour faire ça? Moi, voilà, ce n'est pas fait pour vous donner la confiance en soi. Et tout à coup, Dieu vient dans ma vie et me dit, mais tu dois apprendre la confiance en toi. Parce que moi, j'ai confiance en toi. Parce que moi, je vois ce que tu es capable de faire. Peut-être que tu ne le fais pas comme les autres. Peut-être que tu n'as pas les mêmes moyens que les autres, mais tu en as d'autres. Tu as d'autres talents. Tu as d'autres dons. Tu as d'autres compétences. Et tu es quelqu'un de précieux. Alors apprends la confiance en toi. Je lisais cette semaine une citation qui disait « On ne peut aimer que les gens en qui on a confiance. » On ne peut pas aimer quelqu'un... en qui on n'a pas confiance. C'est vrai. Hein. C'est le béaba. Réfléchissez. Les gens que vous aimez, vous avez confiance en eux. Si vous n'avez pas confiance, si la confiance est rompue, l'amour devient compliqué. Si je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas m'aimer. Je ne peux pas m'aimer. Et l'amour est une des clés importantes du royaume. Donc pour moi, dans ce récit, de la tempête apaisée, au-delà du geste incroyable que fait Jésus de calmer cette tempête, d'arrêter les vents, de tranquilliser la mer, au-delà de cela, il y a cet incroyable don que Jésus fait à ses disciples. « Moi, dit-il, j'ai confiance en vous, au point de roupiller pendant que le bateau est presque en train de couler, parce que j'ai confiance en vous. » Est-ce que ça veut dire que les disciples étaient des gens, des surhommes, des gens incroyables, qui ne failliraient jamais? Ben non, pas du tout, on le voit bien, on le sait bien. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, au moment de la Passion, cette phrase terrible. Alors tous l'abandonnèrent. Et Jésus le savait. Jésus savait que ses disciples n'étaient pas des gens compétents et fiables à tous les niveaux. Mais il avait malgré tout confiance en eux. Et ça, c'est une chose incroyable. Si Dieu me fait confiance, je dois apprendre à me faire aussi un minimum confiance. C'est un travail, hein. c'est un travail. Il ne suffit pas de faire une petite prière et puis voilà, c'est donné. C'est un vrai boulot. Ma femme me dit de temps en temps, elle dit « Ouais, pour toi, il y a encore du boulot. » C'est vrai, c'est vrai. La confiance en moi, il y a encore du boulot. Mais je progresse. Je progresse parce que je sais que Dieu est là. Je sais qu'il a confiance en moi. Alors ça, c'est une leçon. Mais ce n'est pas l'entier de la leçon. Vous savez, on pourrait se dire « Ah ben voilà, je dois avoir confiance en moi, je deviens un chrétien super, du coup j'ai plus besoin de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, parce que moi j'ai tout, je suis, voilà, et du coup je ne passe nouveau plus les portes, hein, et puis tout ira bien comme ça. C'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle. » Alors si on en est là, c'est qu'on a, on s'est arrêté en chemin. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, il y a deux récits de tempêtes apaisées ou de situations sur le lac, en tout cas un peu compliquées. Il y a deux récits. Et le deuxième récit vient en complément et presque en contradiction avec le premier. Et ça, c'est aussi une grande sagesse juive, savoir dire une chose et affirmer son contraire. Ouh, on n'aime pas ça dans l'Église. Hein ? Les choses, elles doivent être bien claires et bien posées. C'est ça, puis c'est pas autre chose. C'est blanc ou c'est noir. Ici, je vois que vous êtes déjà une église compliquée. Il y a quatre rangées. J'aime pas trop ça. J'aime bien les églises où il y a deux rangées. On met les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Hein, comme à la louange. Et puis après, on fait The Voice et puis on regarde lesquels qui gagnent. J'ai fait ça une fois dans un culte, c'était sur on m'avait demandé de parler du retour de Jésus. Mais quelle idée, on m'avait demandé de parler de ça. Enfin bref, fin des temps, tout ça. Et il y a cette fameuse parabole, vous savez, des boucs et des... C'est quoi les autres, je ne sais jamais. Enfin bref, et c'était une église à deux travées. Et je me suis amusé, vous savez, je les ai fait, voilà. Il y avait les sauvés d'un côté, les pécheurs de l'autre. C'était une soirée magnifique. La moitié de l'église était aux anges et l'autre était en enfer. C'était bien. Les choses étaient claires. Les choses étaient claires. Or, c'est pas du tout ce que Jésus fait. Souvent, il dit une chose, ayez confiance en vous. Et puis après, il va dire une autre chose. Et ça nous déstabilise un peu, oui, peut-être, mais ça nous fait grandir aussi et surtout. Deuxième texte, Matthieu 14, depuis le verset 22. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque. Alors déjà là, c'est mal parti. On sent que le ton change. Hein, c'est plus Jésus qui dort sereinement dans la barque en faisant confiance aux disciples. Jésus oblige les disciples à remonter dans la barque. C'est reparti. On va de nouveau faire un truc compliqué. Et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme » disaient-ils. Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Voilà, autre récit, le ton est différent, les circonstances sont presque les mêmes, mais il y a quand même quelques différences. Il y a une tempête qui arrive, mais Jésus n'est pas dans la barque. Les disciples sont tout seuls. On pourrait dire que Jésus veut faire exercice numéro 2. On va voir si vous avez confiance en vous, même quand je ne suis pas là. Hein, ou quand vous pensez que je ne suis pas là. Et les disciples, visiblement, se débrouillent pas trop mal parce que la barque, elle a l'air de tenir le coup. Mais Jésus ne veut pas abandonner ses disciples et surtout Jésus veut leur donner une deuxième leçon. Les faire avancer vers autre chose, une autre dimension de la confiance. Et alors il les rejoint, à pied, parce qu'il n'est pas marin, hein, donc voilà. Il les rejoint à pied, et voilà, il arrive, et bien sûr, c'est la panique. C'est la deuxième fois que les disciples sont paniqués. Hein. Dans les deux récits, les disciples sont paniqués. Quand est-ce que Jésus nous a paniqués? Quand est-ce que nous avons été terrorisés, bouleversés, déstabilisés par sa puissance, par son action? On est tranquille à l'église de la fraternelle. Hein? Il y a même, et je reconnais bien là David, il y a même un canapé pour le pasteur quand il prêche. Hein? Moi, je suis un invité, je dois être debout. Mais lui, je suis sûr qu'il est couché sur le canapé. Hein? On n'est pas du genre à se faire terroriser. Hein? Jésus vient, il surprend ses disciples, il marche sur l'eau. Et là, il donne une leçon à ses disciples en leur disant « Mais je ne suis pas juste le rabbi que vous imaginez. Je suis beaucoup plus grand que ça. Je suis beaucoup plus puissant que ça. Je suis capable de faire des choses qui vous surprennent, des choses qui sortent totalement de votre compréhension, de ce que vous savez maîtriser, comprendre, gérer. Je suis Dieu tout-puissant. » Nous avons une terrible tendance à limiter Dieu à l'intérieur du champ de nos possibles. Hein? Ce que nous savons faire, ce que nous pensons être cohérent, réalisable, alors ça, là, à l'intérieur de ces limites-là, Dieu peut agir et se manifester. Mais au-delà, alors là, on est dans le c'est juste pas possible. Marcher sur l'eau, non. D'ailleurs, c'est pas devenu une habitude dans l'Église. Hein? La Sainte-Seine, on fait, le baptême, on fait. Le lavement des pieds, pas trop. Marcher sur l'eau, j'ai jamais vu ça. Même les églises qui ont un baptistère au fond, j'ai jamais vu, aujourd'hui, on va traverser le baptistère à pied comme ça. Hein. Ça, j'ai jamais vu. Non. On reste dans le champ des possibles. Alors que Dieu nous attend dans l'impossible. Jésus nous appelle à avoir confiance en lui, mais une confiance qui n'est pas basée sur nos compétences ou les choses qu'on comprend et qu'on contrôle, mais sur l'irrationnel, sur la toute-puissance, sur la divinité même de sa personne et de son action, quelque chose qui sort complètement du domaine de notre humanité. Et surtout, une confiance qui est basée sur sa parole et sur son ordre. Ce n'est pas nous qui prenons le pouvoir. Écoutez ce que Pierre dit. « Ordonne-moi de venir vers toi. » Pas Pierre qui se dit tout d'un coup « Ah, je vais faire comme Jésus et je saute du bateau. » Non, « Ordonne-moi sur ta parole, Seigneur. » Il a déjà fait ça. Au moment de la pêche miraculeuse, où il a dit « Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, Seigneur, je marcherai sur l'eau. » Et Pierre descend du bateau et marche. Il marche sur l'eau. Une expérience incroyable. Je me réjouis au ciel de discuter avec Pierre et lui demander comment ça s'est passé, parce que ça devait quand même être assez incroyable. Hein. Alors, marcher sur l'eau, tant que c'est plat, j'imagine que c'est assez facile. Je ne vais pas vous dire que je fais ça tous les week-ends. Hein. Je vais plutôt... Non, je n'ai jamais essayé. Enfin, ne voulons plus, d'ailleurs. Mais à plat, c'est pas... J'imagine que c'est facile. Mais quand il y a des vagues, et il y avait des vagues, là, hein. Quand il y a des vagues, vous avez une vague d'1,50 m ou de 2 m qui approche, il faut monter sur la vague. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, j'imagine. Hein. Puis après, il faut redescendre de l'autre côté. Et on peut comprendre que Pierre est paniqué et qu'il se soit à moitié noyé. Hein. Et Jésus, une fois de plus, qui lui dit, mais t'as pas de foi, t'as pas confiance. Si tu avais confiance, imaginez ce qu'on pourrait faire si nous avions vraiment confiance en Jésus. Si nous avions confiance en Jésus au point de passer par-dessus le bord du bateau et de marcher sur l'eau, de sortir du champ de nos possibles pour entrer sur son ordre dans le domaine de Dieu, dans la réalité du royaume de Dieu. Alors, bien sûr, on entend parfois des témoignages incroyables. Je me rappelle, il y a quelques années maintenant, Jean-Claude Chablot m'avait raconté une anecdote qui lui arrivait alors qu'il tenait une série de réunions. Il y a une jeune fille qui a témoigné, elle est venue là, et puis elle a raconté un beau témoignage, et elle a dit qu'elle avait décidé de vivre par la foi. Alors, quand elle avait besoin de quelque chose, elle priait, quand elle n'avait plus rien dans son frigo, elle priait. Et voilà, le Seigneur amenait de la nourriture. Quand elle n'avait plus d'argent, elle priait et elle recevait de l'argent sur son compte. Enfin, voilà, c'était un témoignage. Les gens étaient « Waouh ! Ça, c'est quelque chose !» Ils étaient vraiment hyper impressionnés. Et à la sortie du culte, Jean-Claude Chablot se tenait à la sortie et serrait la main. On pouvait faire ça à l'époque, vous savez, il y avait un temps où on pouvait serrer la main des gens comme ça. Il serrait la main des gens. Et il y a un monsieur qui arrive vers lui et qui lui dit « Bonjour, je me présente, je suis Dieu. » Alors Jean-Claude Chablot, qui a le sens de l'humour, dit « Ah bon, vous êtes Dieu, mais expliquez-moi. » Et le monsieur dit « Oui, je suis même Dieu le Père. » « Ah bon ? Mais pourquoi vous dites ça ?»« Ah ben, j'ai écouté le témoignage de la jeune fille tout à l'heure et qui nous a raconté comment, voilà, elle était bénie, elle priait, puis les choses venaient, etc. Alors, je suis quelqu'un qui dispose d'une certaine fortune. J'aime énormément ma fille, je suis attentif à ses besoins. Et je sais bien quand elle a plus d'argent, alors je lui envoie un peu d'argent. Et quand de temps en temps, je dépose discrètement un peu de nourriture dans son frigo. Et quand sa voiture est trop pourrie, je lui en fournis une autre. Mais je fais ça discrètement. Je suis Dieu. Ça, mes amis, c'est pas marcher sur l'eau. Ça, c'est faire du paddle. C'est pas la même chose. Et on peut être des spécialistes du paddle, on peut avoir l'impression de faire des choses incroyables avec le Seigneur. Mais ce n'est pas encore faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est véritablement oser sortir de la barque, de cet environnement sécurisé qui est là, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent, oui, en sécurité, où on peut gérer les choses, on est dans le domaine qu'on connaît, qu'on maîtrise, pour entrer vraiment dans l'incroyable de Dieu, dans l'infini de Dieu, dans la toute-puissance de Dieu. Sortir du champ de mes possibles pour entrer dans le champ de Dieu. Et ça, c'est une toute autre aventure. Pour cela, il faut d'abord apprendre à se faire confiance. Parce que quand on se fait confiance, on va explorer notre domaine. Et on va arriver aux limites aussi de notre domaine. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on peut entrer vraiment dans le domaine de Dieu. Donc ces deux expériences, elles sont complémentaires. L'une ne peut pas se vivre sans l'autre. Apprendre à se faire confiance parce que Dieu me fait confiance et apprendre à faire confiance à Christ, confiance à Dieu sur ta parole, sur ton ordre. Je sors de mon domaine pour entrer dans le domaine de ton royaume. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous, pour l'Église de la Fraternelle, pour son Église. Amen. Amen.